France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et l'invité du grand entretien de la matinale de France Inter est aujourd'hui philosophe, professeur à l'école polytechnique. Il publie aux presses universitaires de France un livre passionnant d'une grande subtilité intitulé « Récidive 1938 » dont on va parler ce matin. Intervenez bien sûr au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile France Inter. Michael Fessel, bonjour.
Bonjour.
Votre livre est une plongée dans l'année 1938 en France à travers la lecture des journaux de l'époque. Alors dites-moi, pour commencer, pourquoi donc un philosophe écrit-il en 2018 un livre d'histoire sur ce sujet? Est-ce parce que dans le débat public revient depuis quelques mois l'idée que les nations se réveillent, que les frontières réapparaissent, que les régimes autoritaires se multiplient, que l'Europe est divisée, que les démocraties sont affaiblies, bref, que nous risquons d'être en train de revivre les années 30, ou pour le dire avec les mots du président de la République, Emmanuel Macron, le moment que nous vivons ressemble à l'entre-deux-guerres. Vous croyez à la répétition de l'histoire ?
Je ne crois pas à la répétition de l'histoire, mais je crois qu'il y a dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire moderne, dans l'histoire contemporaine, des traits communs. Quand on parle de retour des années 30, en général, on insiste beaucoup sur le mot retour, ce qui permet de clore immédiatement le débat, puisque on ne s'attend pas plus à voir, et c'est heureux d'ailleurs, Hitler revenir au pouvoir que Maurice Chevalier, je dirais, remonter sur la scène du Casino
voilà,
de Paris.
Problème voilà. Réglé.
Le problème est réglé.
Donc, mais passons à l'actualité.
Mais par contre, il reste à savoir ce que c'était que les années 30, ce qui s'y est passé et qui, après tout, n'est pas forcément, en tout cas c'est ce que je pense et ce que je pense avoir essayé de montrer dans ce livre, qui n'est pas une parenthèse de l'histoire que nous aurions pour toujours, hélas d'ailleurs, refermée en 1945 au profit d'une sorte de consensus unanime pour la démocratie. Dans votre présentation, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, si cette entreprise un peu étonnante, pour quelqu'un qui fait de la philosophie, de se plonger comme ça dans le passé, pas pour faire de l'histoire, mais pour essayer de se laisser emporter, en quelque sorte, par des passions anciennes. Si ce projet m'est venu, c'est parce que nous sommes tout de même dans une certaine urgence, dans une certaine inquiétude, je crois, à l'égard de ce que nous vivons politiquement, et que sans vouloir penser que les années reviennent, en tous les cas, cette inquiétude-là, elle est de nature à nous intéresser à ce qui a déjà été vécu en termes, disons, d'abandon démocratique. Mmh.
Plutôt que le terme de retour ou de répétition de l'histoire, vous choisissez celui de récidive. Expliquez-nous pourquoi vous avez fait ce choix-là.
Alors la récidive, évidemment, c'est d'abord un terme médical qui signifie que le même mal, ça par contre on y reviendra, je pense que c'est le même mal, affecte un corps mais à deux périodes différentes de sa vie organique. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout de dire que la France en l'espèce, puisque je parle essentiellement de la France, serait sociologiquement, politiquement ou même d'une certaine manière culturellement comparable à ce qu'elle était en 1938. Par conséquent, quand on a une récidive d'une maladie, elle se manifeste par des symptômes et par des douleurs et parfois d'ailleurs par des effets létaux, je veux dire, qui sont incommensurables avec ceux qui ont eu lieu lors de sa première advenue. Et puis récidive, c'était aussi une sorte de clin d'œil au fait que, comme j'ai consulté quotidiennement pendant des mois la presse de 1938 sur Internet, j'avais le sentiment un peu pathologique de vivre plutôt en 38 qu'en 2018, puisque lorsque l'on me posait des questions sur l'actualité politique immédiate, comme on y viendra sans doute, eh bien j'avais tendance spontanément à répondre par des événements qui se produisaient en France à cette époque.
Encore une question avant d'entrer dans le vif et dans le détail de votre livre. Pourquoi 1938? Pourquoi avoir fait le choix de cette année-là?
Alors je suis tombé par hasard sur 1938, mais si je m'y suis attaché, c'est parce que 1938 en France, c'est un moment, je dirais, d'une radicalisation du discours politique vers des propos qui sont de plus en plus conservateurs, je dirais même à certains égards fascisants. Et puis c'est la fin du Front populaire, c'est-à-dire c'est le moment où l'abandon, je dirais, du projet social et économique de transformation de de la France entraîne un certain nombre de conséquences qui ne sont pas seulement des conséquences dans le champ économique. C'est-à-dire qu'il y a dans la France de 38 toute une série de mesures qui manifestent une certaine forme, je dirais, d'antagonisme ou en tout cas d'hésitation à l'égard de ce qu'était le parlementarisme traditionnel. Mmh. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'effectivement 38 c'est la montée des tensions en Europe et que le grand argument que j'ai trouvé présenté pour justifier ces mesures de moins en moins démocratiques prises en France, c'est de dire au fond on ne peut plus, la France ne peut plus se permettre de s'offrir le luxe d'une démocratie intégrale alors qu'elle est de plus en plus entourée par des pays autoritaires voire même totalitaires.
La structure du livre est la suivante, vous passez en revue, vous analysez un certain nombre de défaites, la défaite sociale, la défaite de la République, la défaite morale, la défaite des partis, et partons de là, la défaite de Blum, Léon Blum et le Front Populaire. Expliquez-nous ce qui se joue dans ce moment-là très particulier.
En avril 1938, Léon Blum propose pour la dernière fois la formation d'un gouvernement de Front Populaire et même d'ailleurs d'Union Nationale. Parce qu'il faut rappeler qu'évidemment on est dans le contexte ici qui suit immédiatement l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, donc une montée en puissance et même un expansionnisme hitlérien extrêmement présent. Et donc Blum propose à l'Assemblée nationale et au Sénat de constituer un gouvernement d'union. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier, c'est quand même, s'il y a un point commun objectif avec 2018 ou 19, c'est que nous sommes 10 ans après une crise générale du capitalisme. Et donc la France entre à ce moment-là en récession. Et Blum propose un programme économique de style New Deal, hein, c'est-à-dire relance par l'investissement public. Et il est renversé sur ce projet au profit d'une politique qui sera incarnée par Daladier, une politique beaucoup plus libérale, économiquement j'entends, c'est-à-dire qui va beaucoup plus insister sur la libéralisation du capital, la libération du travail, toutes sortes de termes, de thématiques qui ne sont pas forcément étrangères à notre oreille, puisque les deux grands, je dirais, leitmotifs de 1938 sont « il faut remettre la France au travail », c'est une formule de Daladier, et puis « il faut retrouver le sens de l'effort ».
Est-ce que l'objet que vous analysez au fond dans ce livre, Michael Fessel, la question est-ce que c'est la suivante ? Comment se défait une démocratie ?
C'est très exactement cela. Et comment elle se défait, puisque je suis rentré en 38, si j'ose dire, par la voie de la presse, comment elle se défait d'abord dans le langage ? Dans une forme de grammaire, c'est ça qui m'a intéressé, parce que je ne suis pas historien et ce n'est pas un livre d'histoire. Je n'ai pas cherché à expliquer, j'ai cherché à comprendre, c'est-à-dire à me mettre dans la tête, au fond, évidemment avec tout le caractère fictif que cela comporte, de quelqu'un qui, en 1938, faisant abstraction autant que possible du fait que je connaissais la fin de l'histoire, et n'avait pour seul rapport à son présent politique que les journaux, hein, que l'information. Et de ce point de vue, effectivement, j'ai constaté qu'il y avait dans le discours politique et dans le discours journalistique de plus en plus une radicalisation, non pas au sens simplement gauche-droite, enfin en l'occurrence droitisation, mais vous avez très bien ciblé la chose, un abandon de la démocratie comme ethos, comme manière de vivre. Grosso modo, les institutions restent dans le cadre de l'état de droit, quoi qu'il y ait beaucoup d'atteintes qui soient faites dans ce domaine néanmoins. Mais c'est surtout ces espèces de réflexes de pensée, cette manière de considérer qu'au fond, la fête est finie, que le Front Populaire a coûté trop cher, non seulement économiquement, mais au fond, il a mis trop en valeur les libertés, et que dans un monde de plus en plus globalisé, le terme, c'est celui d'aujourd'hui, dans un monde où les connexions entre les pays existent, et dans un monde surtout où monte le nationalisme de tous côtés, pour rester une république, la France doit abandonner de plus en plus ses principes démocratiques.
Ça, c'est un paradoxe quand même extraordinaire. Pour préserver la République, abandonnons la démocratie.
Oui, parce que République devient en 38, et là aussi, c'est quelque chose que j'ai souvent eu l'occasion de constater aujourd'hui, devient un mot valise, en quelque sorte. Hein, on le met en général ou on le place avec une majuscule. C'est-à-dire que ça devient le titre d'une démocratie forte. D'une démocratie forte au sens, je dirais, autoritaire, d'une certaine manière. Hein, moi, personnellement, je suis parfaitement républicain, mais républicain dans mon esprit, cela veut dire tout de même mettre en avant d'abord les principes de la délibération, les principes de du débat, mais au sens, je dirais, politique du terme. Or, pour prendre un seul exemple, on a souvent l'image de la Troisième République, et de la Quatrième d'ailleurs, comme d'un régime parlementaire dans lequel, au fond, les partis bavassent et rien ne se décide. Or, en 1938, toutes les mesures qui sont prises le sont par décret. C'est-à-dire que le Parlement se réunit, vote les pleins pouvoirs et ne se réunit plus. Autrement dit, on a déjà une concentration au niveau de l'exécutif du pouvoir qui fait qu'on est dans un régime quasi-présidentiel.
Alors dites-nous, Michael Fessel, on a à peine effleuré votre livre, mais dites-nous ce qui résonne entre 1938 et 2018, parce que la simple idée, le simple fait de le formuler comme ça dans une question est insupportable, mais pourtant, vous voyez des petites choses, une sonorité commune, on va dire ça.
Exactement,
comme ça.
Il y a des échos. Il y a des échos qui sont directs ou indirects. Je citerai un écho qui est tout de même assez direct. 1938, c'est l'année où sont pris des décrets, encore une fois, tout au long de l'année d'ailleurs, de plus en plus systématiquement hostiles aux réfugiés. Car il faut savoir que cette année-là, du fait de l'abandon d'ailleurs de l'Autriche puis de la Tchécoslovaquie, Hitler s'empare de la vie de très nombreux juifs supplémentaires, si j'ose dire, auxquels il applique évidemment ses lois antisémites. Ce qui fait que l'Europe est confrontée cette année-là à une crise migratoire assez considérable.
Et voilà un élément, un écho.
C'est un écho, ce qui est surtout un écho, c'est que les décrets qui sont pris en France à ce moment-là sont des décrets systématiquement hostiles aux étrangers. Hein. Et par conséquent, il y a même une conférence qui se tient à Évian en 1938 pour régler ce problème des réfugiés réunissant les États-Unis, la France, l'Angleterre, et dont le but, enfin dont plutôt le résultat, si je puis dire, sera que l'on n'acceptera plus en France de nouveaux migrants.
Les différences sont telles entre 38 et 2018, sur cette question-là, celle que vous venez de décrire, qu'on se demande même si la comparaison est possible.
La comparaison, je ne la pratique pas au sens, je dirais, terme à terme. Hein. Il ne s'agit pas de comparer les juifs étrangers de 38 aux réfugiés syriens, par exemple, d'aujourd'hui. Ce qui m'a, je dirais, intéressé et à certains égards, effectivement, terrifié, c'est plutôt la forme d'interprétation de ces phénomènes. Je veux dire par là qu'il y a, de la part du monde politique, de la part une grande partie de la presse et certainement d'ailleurs de l'opinion publique, une très grande défiance à l'égard de toute espèce de nouvel accès à, je dirais, à ce qui est tout de même la tradition française. Une des phrases, ou plutôt une des formulations qui est le plus systématiquement présente en 1938, c'est « La France a beaucoup fait en matière sociale, en matière de droits de l'homme, mais ». Mais alors évidemment, on peut toujours dire que ce ne sont que des échos, mais j'entends dans ce mais comme une espèce de fatigue à l'égard de ce qu'est tout de même la tradition française. Et donc je ne compare pas évidemment la situation des individus qui se trouvent, quoi qu'elle soit déplorable aussi pour les réfugiés actuellement, je ne compare pas la situation des individus, je compare, je dirais, une sorte, pas un logiciel, une manière d'interpréter les choses, qui en l'occurrence consiste tout de même à dire qu'en période de crise, nous ne pouvons plus nous permettre d'être la patrie des droits de l'homme.
Et puis il y a déjà, Michael Fessel, l'effacement du clivage gauche-droite.
Oui, il y a en particulier une tentation très forte qu'on voit monter de gouvernement de type technique, post-partisan, c'est-à-dire qui ferait, en quelque sorte, qui abandonnerait l'idée que le clivage en démocratie se fait sur des critères politiques et idéologiques respectables. C'est plutôt l'idée que le clivage se fait entre les inconscients. Alors en général, les inconscients à cette époque-là, c'est ceux qui regardent la guerre avec Hitler comme inéluctable et il faut s'y préparer. Hein. Il y a là des hommes de gauche, mais aussi des hommes de droite très clairvoyants auxquels je rends hommage. Et puis il y a ceux qui se disent réalistes, il y a ceux qui se disent pragmatiques et qui au fond, d'une certaine manière, ont tendance déjà à considérer que la politique, c'est une forme de gestion, essentiellement fondée d'ailleurs sur, je dirais, le maintien de la finance et le maintien de la politique économique. Mais en abandonnant un peu cette idée, au fond, qu'on peut réunir une nation autour d'autre chose que de principes ou gestionnaires ou autoritaires.
C'est ça l'écho le plus dangereux, selon vous ?
C'est l'écho qui, au moins du point de vue, je dirais, de la manière dont on conçoit aujourd'hui le politique, est le plus dangereux, le plus inquiétant, parce que, d'une certaine manière, j'ai le sentiment que le fascisme, pour employer tout de même un terme qu'on n'emploie plus beaucoup, le fascisme, en général, est le premier à se gargariser de cet effacement du clivage droite-gauche, car le mot d'ordre fasciste de 1938, qui était encore celui du Front National dans les années 90, c'est ni droite, ni gauche, français. C'est-à-dire de retraduire l'alternative droite-gauche en alternative les nationaux et puis les ennemis de la nation, les ennemis de la patrie.
Les journaux servent à construire avec de l'encre un immense champ de bataille. La guerre des mots est une guerre civile française, écrivez-vous. Qu'en reste-t-il aujourd'hui quand on fait résonner 38 et 2018? La presse est faible aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était à l'époque, le média archi-dominant. Mais une forme de violence se déploie aussi aujourd'hui dans l'espace public.
La presse est faible, mais la presse s'est souvent radicalisée aussi, brutalisée dans son discours, la presse écrite, même si elle n'a plus cette influence qu'elle avait évidemment en 1938. Mais enfin, les médias les plus importants aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui passent par Internet et souvent qui sont déformalisés ou virtualisés par rapport à ce qui existait à l'époque, on le sait bien, c'est bien pour ça qu'on parle d'ailleurs à mon avis à tort de légiférer sur eux, on sait bien qu'ils charrient aussi des formes de haine, de radicalisation pour des raisons qui sont des raisons qui, à mon avis, ne tiennent pas seulement à l'état idéologique du pays, qui tiennent à la nature même de ces instruments. C'est-à-dire qu'il y a comme une montée aux extrêmes. La politique du buzz, en quelque sorte, existait déjà en 38 parce que c'est tout de même le moment où on commence aussi à spectaculariser l'information. Et pour la spectaculariser, rien n'est meilleur, sans doute, que d'essayer d'insister sur ce qui fait scandale ou de stigmatiser aussi des populations qui sont considérés de plus en plus souvent comme indésirables.
J'ai encore quelques questions d'actualité à vous poser, Michael Fessel, mais je voudrais donner la parole aux auditeurs de France Inter qui sont au standard. Bonjour Christiane.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Oui, merci. Voilà, je voudrais poser une question qui me semble cruciale par rapport à la situation actuelle, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne ressemble pas à la République de Weimar? Est-ce que si on relit la psychologie de masse du fascisme de William Reich, on se rend compte effectivement que le terreau est préparé pour qu'on puisse aboutir à un extrémisme de droite et qu'il faut se méfier. Il faut se méfier beaucoup parce que justement, M. Fossel parlait de il a employé le mot fascisme. Hein, ce sont des gens qui ont un double masque. Ils se donnent l'apparence d'être aimables, mais on les connaît. On sait comment ils procèdent et petit à petit, ils rongent tout ce qui fait la démocratie et la République.
Bien compris. Bien compris, Christiane, bien compris. Merci pour cette question riche et dense que je transmets à Michael Fessel.
Alors pour ce qui est effectivement, merci pour ce qui est de la comparaison avec la fin, en tout cas de la République de Weimar. Je répète, je ne suis pas historien, mais il est clair qu'au fond, en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert en France et je crois que c'est pareil en Allemagne, on ne passe pas, je dirais, du jour à la nuit, du jour au lendemain, si je puis dire. Autrement dit, il y a une sorte d'habituation, le mot n'est pas très joli, aux décisions autoritaires qui ne veulent pas dire d'ailleurs que ce qui précède soit de nature identique à ce qui suit. Hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais l'opinion, au fond, si je devais dire les choses de manière la plus naïve possible, je pense que les gens ne sont pas spontanément fascistes ou même d'extrême droite. Ce n'est pas, je dirais, non seulement ils ne le sont pas spontanément, mais ils ne le sont pas de bon cœur. Se met en place en 1938, en tout cas en France, cette idée finalement que face au discours du « il n'y a pas d'alternative qu'une politique de, disons, très très libérale sur le plan économique et autoritaire sur le plan politique », il se met en place, hélas, l'idée qu'en fait il y a une alternative. Et à tort, beaucoup pensent que cette alternative se trouve du côté du fascisme ou en tous les cas d'un système très autoritaire.
Sur Twitter, Mathieu vous pose la question suivante, la grande différence avec 38 n'est-elle pas la capacité des populations à revendiquer? Gilets jaunes, marche pour l'égalité homme-femme, marche pour le climat, manifestations en tout genre. Y avait-il des mouvements sociaux comparables à l'époque?
Michael Fessel. Il y a eu des très grands mouvements sociaux en 1936. En 38, il y a une tentative face aux mesures extrêmement dures qui sont prises en matière sociale par le gouvernement Daladier. Il y a une tentative de grève générale, mais effectivement, elle échoue. Elle échoue, il faut bien le dire aussi, à la suite d'une répression assez sévère et de l'usage de gaz lacrymogène en particulier. Et ce qui est intéressant, enfin, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir de l'échec de cette grève, le débat ne devient plus politique, ne devient plus ou ne se situe plus sur le terrain social, mais exclusivement sur le terrain identitaire et culturel. On pose des questions, quelles sont les racines de la France, quelle est l'identité française, toutes questions qui ont certainement leur importance, je ne le nie pas, mais qui se font en général au détriment détriment de questions sociales de base, je dirais, qui en général sont plus compatibles avec un règlement démocratique.
Alors bondissons jusqu'en 2018, Michael Fessel, sur le maintien de 2018-19. Et deux questions d'actualité. Sur le maintien de l'ordre, que dit selon vous le durcissement qu'on a pu voir cette semaine de la part de l'exécutif, le fait de donner à la police l'autorisation de ne plus seulement être statique par exemple, mais d'aller au contact, le fait que l'exécutif communique sur la présence de militaires de la force Sentinelle pour faire du maintien de l'ordre, quitte à dire que ça n'est pas exactement ça et qu'en même temps cette force Sentinelle a toujours été là, donc c'est une annonce très ambiguë. Comment analysez-vous l'ensemble de ce mouvement?
Je souhaite bon courage aux militaires qui devront traiter toutes ces injonctions contradictoires. C'est un mouvement qui est tout de même assez ancien parce que ça fait à peu près 20 ans, j'avais écrit un petit livre là-dessus, donc j'ai suivi les choses de près. En 20 ans, il y a eu à peu près 20 lois sécuritaires votées j'entends par lois sécuritaires des lois qui durcissent le code pénal sur toute une série de sujets. Alors évidemment, là, on a tout de même franchi un palier important avec une forme tout de même de militarisation de l'ordre public qui est extrêmement, à mon sens, préoccupante.
Mais enfin, maintenir l'ordre républicain ou l'ordre public...
Oui, mais maintenir l'ordre dans une situation de guerre est une chose. Maintenir l'ordre dans une situation qui n'est tout de même pas encore une situation de guerre, même pas de guerre civile, en est une autre. Alors vous allez
oui,
me dire...
Oui, mais le maintien de l'ordre, c'est même en temps de paix.
Oui, mais le maintien de l'ordre relève de la police. Ici, il s'agit de l'armée. Donc, le maintien de l'ordre, évidemment, je n'ai rien contre, mais à condition qu'elle soit garantie, je dirais, par la voix des civils, parce que ce n'est tout simplement pas le métier des militaires que de maintenir l'ordre dans une population, pour autant qu'il n'y ait pas, je le répète, une guerre civile. Et puis surtout, ce sont des mesures un peu désespérées ou de désespoir, parce que, du gouvernement, je veux dire, c'est faute d'issue politique à ce mouvement, hein, quelle que soit l'appréciation qu'on en donne, c'est faute d'issue politique que l'on en est à prendre des mesures de cette nature qui sont d'ailleurs vis-à-vis de tout ce qu'on nous dit par ailleurs de la nécessité de débattre une espèce de contraste énorme qui fait qu'on envoie d'un côté l'armée et ensuite on propose une discussion indéfinie. En réalité, ce qui manque, c'est peut-être un certain nombre de décisions. Je ne suis pas homme politique, je ne prétends pas savoir lesquelles, mais de décisions susceptibles de ramener non seulement l'ordre dans ce pays, mais peut-être aussi un peu la justice.
Pourquoi n'avez-vous pas participé au grand débat des intellectuels organisé par Emmanuel Macron et qui a duré 8 heures.
Peut-être parce que je m'attendais à ce qu'il dure 8 heures. J'étais pas à l'Élysée, effectivement, mais c'est pas un événement considérable. J'ai été invité,
j'ai répondu.
Oui, j'ai répondu, mais j'ai voulu savoir quelles étaient les conditions, et les conditions, vous les avez vues. Il s'agissait de formuler en 4 ou 5 minutes maximum une question fondamentale pour la France. Alors, très simplement, je me suis interrogé plusieurs jours pour savoir comment, en 2, 3 ou 4 minutes, dire quelque chose qui ne soit pas totalement télécommandé, je n'ai pas trouvé. Et donc j'ai pensé que le format, de ce que j'ai vu, je ne suis pas convaincu du contraire, j'ai pensé que le format, mais après tout, c'est pas à moi d'en juger, mais je n'y étais pas, n'était pas adapté à cette, aux
c'était
enjeux.
C'était inutile.
C'est jamais inutile de discuter, et encore une fois, moi je ne porte pas de jugement ni sur ceux qui n'y sont pas allés en ayant fait grand bruit, ni sur ceux... C'est pas inutile. Je dirais que ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que on a le sentiment, toujours, c'était le cas dans les autres débats, d'adresse faite au président et de réponse. J'aimerais bien que de temps en temps, celui ou celle qui fait l'adresse, qu'il soit intellectuel ou pas, puisse répondre à la réponse. C'est-à-dire que là, on aurait un dialogue et pas un débat.
Merci Michael Fessel. Je rappelle le titre de ce livre, je le disais, d'une très grande subtilité, extrêmement accessible. Il faut juste avoir la curiosité de le lire pour pouvoir le faire. Il s'intitule « Récidive 1938 » et il est publié aux Presses universitaires de France.